Didier Codorniou, pour cette deuxième partie, nous nous retrouvons donc pour parler essentiellement de la région. Donc je l'ai dit tout à l'heure, nous l'avons vu, vous avez été non seulement réélu, mais élu pour 7 ans, ce qui vous donne un délai supplémentaire d'action devant vous. Alors quels sont, pour ces 7 années qui viennent, les grands axes de votre programme avec Carole Delga à la région Occitanie?
D'accord. Donc les axes, en fait, on les retrouve. Donc on les a retrouvés pendant la campagne. Donc pour les citer rapidement, c'est la santé, la sécurité, l'écologie, la mobilité, l'économie, et puis ce qu'on appelle le vivre ensemble. Donc sur les valeurs de la République et de la laïcité. Deux mots me viennent donc à la bouche. C'est la confiance et la transparence. C'était aussi le message de la présidente Carole Delga. Je retiendrai donc sur ces 5 axes peut-être celui qui aujourd'hui est toujours d'actualité et encore plus lui lié à la santé. Comme vous le savez, hein, donc la présidente avec la majorité a souhaité mettre en place un dispositif assez innovant sur un recrutement de médecins et infirmiers, donc salariés, dans ce qu'on appelle les déserts médicaux. Et on a communément, donc, ce qu'on appelle un appel à manifestation d'intérêt, solliciter l'ensemble de tous les maires de la région pour leur remplir un questionnaire et puis créer donc un GIP qui va permettre donc de pouvoir donc porter ce dossier qui nous semble un dossier prioritaire, puisque uniquement un chiffre, en 11 ans, entre 2008 et 2019, la densité de médecins généralistes a diminué en passant de 175 médecins pour 5 000 habitants à 100 médecins pour 5 000.
Sur l'ensemble de l'Occitanie.
Mais
la santé n'est pas une compétence normale, habituelle de la région.
Non, complètement. Mais vous savez, la santé, ce qu'on avait déjà fait depuis pas mal d'années, hein, donc je me souviens en 2004-2005 sur les fameuses maisons de santé, où d'ailleurs, à une époque, on les ouvrait, on les créait, sans avoir même l'autorisation de l'ARS. Et ensuite, bien sûr, bon, on s'est appliqué à travailler ensemble et on a monté 166 projets immobiliers qui ont été soutenus par la région, ce qu'on appelait les maisons de santé ou les maisons de santé pluriprofessionnelles.
Mais qui étaient des initiatives des communes?
Alors c'était des initiatives de communes soutenues par la région et par l'État, donc dans le cadre de l'ARS, avec donc des communes qui étaient effectivement en grande difficulté.
Alors c'était là aussi carencé, en quelque sorte.
Oui, alors moi j'ai le souvenir dans le département de l'Aude, donc notamment la première maison qui a vu le jour, c'est à Tuchan, et j'étais avec Georges Frêche donc pour l'inauguration.
Oui, ça remonte à quelques années.
Mon cher Jean-Claude.
Oui, donc effectivement, ce problème, on en a pris conscience, en tout cas certains en ont pris conscience il y a quelque temps, mais il se pose avec une acuité de plus en plus grande. Et les chiffres que vous citiez, Didier Codorniou, sont très éloquents à ce niveau-là, quoi. On a à peine plus de la moitié aujourd'hui de médecins libéraux en moyenne en Occitanie.
Et c'est là où se posent les problèmes de l'organisation territoriale. Peut-être juste un petit mot. Vous savez qu'il y a beaucoup de contrats, donc des contrats territoriaux, il y a les contrats de l'État, il y a les contrats de la région. Nous avons d'ailleurs été initiateurs de ces contrats territoriaux de l'Occitanie. Et aujourd'hui, on crée une fracture un peu plus profonde, puisque la volonté de la présidente, c'était de ne laisser aucune commune donc sur le bord du chemin. Et puis là, la lumière aujourd'hui de ce qui se passe, donc il y a un fossé qui grandit entre les métropoles, les communautés d'agglomération et les dites communes rurales. Donc il est de notre responsabilité, là aussi. C'est un sujet d'actualité, hein, je vous en parle, parce qu'en même temps, c'est un peu nouveau. La présidente nous a demandé de regarder avec une grande attention comment répondre donc aux besoins de ces communes rurales, donc vraiment avec peu de moyens, pour que la collectivité régionale puisse les aider, les accompagner, en dehors du secteur de la santé, sur tout simplement des dossiers, des projets qui peuvent porter, et en termes d'ingénierie, en termes de financement, qui ne peuvent pas donc arriver au bout de la chaîne. Donc là aussi, on va travailler sur ces dispositifs.
Carole Delga, donc la présidente réélue, elle aussi, d'ailleurs, au passage, elle a été non seulement été réélue, mais confortablement réélue, ce qui vous donne aussi peut-être davantage d'aise d'aisance ou d'aise dans votre action. On l'a entendu plusieurs fois se plaindre que, à son avis, les régions n'ont pas assez de pouvoir dans certains domaines, par exemple la santé. Est-ce que vous avez à ce niveau-là un plan d'action ou de revendication clair et précis pour les années qui viennent ?
Là, sur les, c'est vrai qu'effectivement, c'est une demande qui avait été donc formulée à plusieurs reprises donc de la présidente, sujet sensible donc et derrière donc les retours ne sont pas du tout ce qu'on espérait, mais je peux comprendre parce que c'est un sujet très très complexe. Par contre, je vous parlais des contrats, mais aussi des projets très très structurants. Par exemple, sur la LGV aujourd'hui, sur le financement, voilà une opération qui a pu donc voir le jour alors qu'on combat, et la présidente Carole Delga a été donc dans la lutte dès les premiers jours, et on a, je crois, aussi la chance d'avoir un premier ministre de l'Occitanie, donc Jean Castex, avec qui les relations Jean Castex et Carole Delga se passent très très bien, qui a pu débloquer.
Il y a un feeling apparemment.
Alors il y a un feeling, et je crois que plus que ça, donc Jean Castex a compris que cet enjeu territorial était trop important à débloquer avec la présidente, donc les deux lignes LGV, et qui vont permettre donc de pouvoir aussi trouver un financement adapté. Et là, voilà, c'est vraiment un moyen donc d'intelligence, alors bien sûr avec des choix importants aussi sur le plan du financement, mais donc on a trouvé les financements qui vont nous permettre donc de pouvoir relier donc Montpellier de Perpignan et Toulouse de Bordeaux sur les lignes LGV, ces fameux maillons manquants qui vont nous permettre donc de pouvoir se déplacer plus rapidement sur Paris, sur la capitale, mais aussi de mixer donc entre la ligne voyageurs et fret, puisque maintenant c'était des dossiers qui ont été, en termes de cohérence, qui ont été peut-être donc un peu oubliés, qui sont relancés pour qu'on puisse avoir une vraie cohérence de transport, avoir moins, on ne peut pas demander de rentrer dans une démarche de transition énergétique et écologique, et d'avoir des milliers de camions qui continuent à passer par les autoroutes et par les routes.
Et ça c'est la revendication d'avoir une ligne qui accepte aussi le fret, c'est-à-dire le transport ferroviaire, alors que jusque-là, à peu près seule une moitié n'est pas encore prévue.
Tout à fait, et c'est là où il y a une vraie volonté d'avoir de la cohérence sur ces lignes qui n'étaient pas forcément prévues. Je reviens un peu sur ce que vous disiez avec ces risques de réchauffement climatique, d'inondation. On ne peut pas donc envisager de ne pas avoir du fret déplacé, ce qui comporte de notre côté donc des problèmes multiples, notamment sur les paysages. Donc là, c'est aussi donc à trouver une bonne harmonisation pour que le fret et les voyageurs soient sur une même ligne qui soit acceptée par nos populations, et c'est tout le sens aussi des débats publics.
Oui, donc Carole Delga, on peut s'y attendre, soutiendra mordicus cette notion d'avoir également du fret entre Béziers et Perpignan, ce qui n'est pas prévu dans le projet actuel.
Tout à fait.
Ouais. À propos, alors, ça veut dire aussi cette nouveauté dans le financement que, alors que jadis c'était essentiellement l'État et l'Europe qui finançaient, aujourd'hui les collectivités territoriales, dont la région, en prend une large part.
Vous savez, dans la vie politique, il faut toujours faire des choix. Il y a eu un choix politique, souvenez-vous, en pleine période de pandémie, l'État était très en retard sur les protections, notamment sur les masques, et la collectivité régionale donc a financé des masques, donc notamment pour les lycéens et le personnel, et a multiplié donc ses commandes au niveau des collectivités avec des aides et bien sûr des plans de relance qui nous ont permis de sortir au plus vite de la pandémie. Je crois que il est de notre responsabilité. Alors après, ce sont des choix politiques avec la santé, ce que je viens de dire, mais je crois que là aussi les Français et les habitants ne se trompent pas. Quand vous avez une présidente comme Carole Delga qui est élue aussi brillamment, ça veut dire que les actions qu'elle comporte sont de bonnes actions. Après, là où c'est aussi donc sensible, hein, c'est sur les budgets. Là, on travaille, là, on était sur le débat d'orientation budgétaire. Donc, il y a une consommation importante donc de budget sur une réorientation donc qui affecte d'autres lignes. Et il sera important pour les élus que nous sommes de pouvoir peut-être aussi rediriger des actions ou peut-être donc de revoir par la baisse donc des actions qui étaient jusqu'à présent financées donc fortement par la collectivité régionale.
Oui, à propos de ferroviaire, il y a aussi la volonté affirmée de redémarrer ou de réinitier d'anciennes lignes qu'on appelle des lignes fines, je ne sais pas pourquoi.
Oui, en fait c'était c'est dans le cadre de la compétence de la région
c'est la compétence normale.
Et cette compétence donc on l'assume pleinement. On a la chance d'avoir un vice-président, Jean-Luc Gibelin, très très brillant et très compétent, qui passe beaucoup de temps donc sur ces petites lignes, qui passe beaucoup de temps sur le TER, qui passe beaucoup de temps aussi sur des connexions importantes donc entre la mer et le fer, des connexions donc sur les transports des marchandises, où 90% des marchandises donc passent transit par les mers ou par les océans, et là aussi donc c'est aussi des sujets sur lesquels on n'a pas trop le temps d'échanger, mais les enjeux ils sont économiques importants, écologiques aussi très très importants sur le plan donc de l'empreinte carbone.
Voilà, on marque Didier Codorniou une seconde pause, on se retrouve pour une troisième partie, alors où on abordera des choses un peu plus personnelles, mais on restera encore sur certains sujets à la fois vous concernant et concernant la région.